Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Marc avec le frère Dominique Collin. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. Au micro, Pierre-Paul Delvaux, pour mener, avec le frère Dominique Collin, une lecture cursive de l'Évangile de Marc. Aujourd'hui, deuxième émission, et je vous rappelle simplement et brièvement que nous souhaitons avant tout que vous puissiez trouver ici une correspondance entre ce que vous vivez et ce que vous lisez et entendez de la trace de cet homme, Jésus. Nous avons, dans la première émission, situé l'Évangile de Marc dans son originalité, sa construction. Nous avons parlé du commencement de ce premier verset. Eh bien, nous allons entamer ces premiers versets et leurs commentaires. Je vais les relire et la parole sera ensuite à Dominique Collin, que je salue.
Oui, bonjour. Bonjour, voilà. Pierre-Paul.
Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici, j'envoie mon messager en devant de toi, pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Comme je disais dans la première émission, l'entame de cet évangile est assez fulgurante.
Oui, et nous étions arrêtés sur le premier mot. Commencement, arché. Il faut maintenant dire un mot du deuxième mot. Bon, non pas qu'on va faire traîner les choses en longueur comme ici, mais il faut s'arrêter sur le mot évangile. Dans la première émission, j'ai déjà montré un petit peu que le mot marque à la fois et d'abord la proclamation donc, d'un message, d'une annonce, d'un événement, quelque chose qui arrive. Et puis, c'est devenu aussi la marque d'un genre littéraire spécifique pour parler d'un livre. Mais quand donc Marc écrit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ », il faut entendre le commencement d'une heureuse annonce, avant d'être le commencement d'un livre, même si, évidemment, en commençant par ce premier verset, il commence aussi la rédaction d'un livre qui portera le nom d'évangile. Mais je rappelle peut-être à nos auditeurs que le mot « évangile » pour qualifier le livre, ça apparaît chez Justin au milieu du IIe siècle seulement. Ça veut dire que les premiers chrétiens, quand ils ont reçu l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, n'avaient pas l'impression de tenir en main un évangile, mais d'avoir donc un récit qui est le début d'une proclamation qui va donc concerner tout ce qui suit. Donc l'évangile, ce n'est pas, je vais dire, l'extraction d'un message, c'est-à-dire d'un contenu. Ce n'est pas d'abord et avant tout ce que Jésus dit, c'est ce que Jésus fait, c'est sa vie qui est à la fois proclamation, enseignement, mais aussi rencontre signifiante avec des individus, hommes, femmes, surtout des malades, surtout des petits, des laissés pour compte, et pour qui Jésus va souvent être le catalyseur de la foi, le relèvement de ces hommes et femmes blessés, c'est-à-dire le signe que le royaume est déjà là. Et c'est donc l'entièreté de ce que Marc nous raconte qui est l'évangile. Important pour ne pas réduire donc évangile à quelque chose qui serait de l'ordre d'un message, c'est-à-dire qui donne des références au sens même où, quand peut-être dans les générations qui nous précèdent, l'on enseignait le catéchisme, c'était des contenus. L'évangile, c'est plus généralement une histoire qui se passe avec des personnages et que Marc va prendre soin de raconter.
Alors, au fond, finalement, le début de cette bonne nouvelle, d'après ce que vous dites, ça veut dire que finalement, toute cette proclamation n'est pas finie, en quelque sorte. Un petit peu comme si la révélation continuait
tout
encore
à fait.
Maintenant, au présent.
Il y a quelque chose de cette idée, d'autant plus que je pense que Marc n'a pas en tête ce que théologiquement on va circonscrire dans le terme de révélation. Il y a un passage au chapitre 14 que nous parcourrons quand nous y arriverons, où Jésus va dire, s'adressant et parlant de la femme qui vient de faire une onction sur sa tête et qui a pour cela gaspillé, entre guillemets, un nard très précieux, ou du parfum, une sorte de Chanel numéro 5. Et donc les spectateurs de cette scène sont scandalisés et disent « mais on aurait pu donner cette somme pour les pauvres ». Et Jésus dit « partout où sera diffusé l'évangile, on fera mémoire du geste de cette femme ». Donc il y a une extension, une diffusion, un peu comme le parfum qui se répand dans une pièce. Il y a donc une diffusion, un rayonnement de l'évangile dont le récit de Marc, si vous voulez, il est le début, il raconte le début de cette diffusion sur toute la terre et à tous les âges de l'histoire des humains. Donc l'évangile continue à nous atteindre, de sorte que quand on lit l'évangile de Marc, il y a donc toujours à nouveau quelque chose qui inaugure cet instant et ce moment où quelqu'un reçoit, est touché, est atteint par l'évangile. Alors, j'ai dit beaucoup le mot évangile, mais il faut peut-être rappeler que c'est en grec « evangelion » et que l'on le traduit donc habituellement par une paraphrase, souvent par « bonne nouvelle ».« Bonne nouvelle », le terme est probablement tout à fait correct, mais moi je préfère entendre ou faire entendre en « evangelion » le fait que vous avez donc « angelon », angelos, angelo, ça veut dire à envoyer, à annoncer, ce qui a donné en français le mot ange. Angelos, c'est un envoyé, un annonciateur.
Le messager.
C'est un messager.
Oui, oui, oui.
Et c'est un préfixe dit en grammaire grecque euphorique. Alors l'euphorie en grammaire grecque, ce n'est pas l'excitation passagère et un peu excessive de joie ou de plaisir, c'est plus sobrement une manière de tenir bon. Donc il y a une notion de constance, de courage, qui fait qu'il n'y a évidemment une notion de quelque chose qui est heureux, mais qui est heureux pour aider les gens, vraiment, à ce que ce grand théologien protestant du XXe siècle, Paul Tillich, appelait le courage d'exister, et qui est quasiment un synonyme du mot foi, du mot pistis en grec. C'est quoi avoir foi? Eh bien, c'est renouveler, retrouver toujours ce courage d'exister. Alors, on pourrait donc traduire évangile donc, tout à fait par bonne nouvelle, ou mieux encore par heureuse annonce, ou pourquoi pas encore par parole d'encouragement. On y entendrait quelque chose qui fait que un auditeur ou un destinataire de l'évangile, quand il va bien, peut toujours être encouragé, et surtout quand ça va mal, que le courage de vivre est en berne, c'est là que l'évangile aussi révèle qu'il est force de Dieu, puissance de Dieu, qu'il est force de consolidation, force de consolation. Et donc il y a aussi un message d'encouragement adressé, on le reverra là encore un peu plus tard dans l'évangile de Marc, quand Jésus est frappé, touché de pitié, de compassion profonde pour tous ces gens sans berger. Et donc l'évangile, c'est aussi une parole, j'allais dire, forte pour redonner vigueur à ceux qui sont peut-être un peu là de vivre.
Oui, c'est une belle expression qui dit « la foi, c'est marcher quand même ».
C'est marcher quand même.
Marcher quand même.
Oui.
Et combien de gens, oui, effectivement, autour de nous marchent quand même.
Tout à fait.
C'est ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, dès le début, donc, tout ça est proclamé, tout ça est posé, en quelque sorte, parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ce n'est pas anodin.
Tous les mots, évidemment, portent. Et je crois qu'il faut, comme Marc, je pense, ne pas vouloir les expliciter parce que justement tout son évangile sera essayer de ne pas nécessairement et seulement comprendre le sens lexical ou étymologique du mot Christ ou du mot ou de l'expression Fils de Dieu, mais de comprendre de quelle manière ce Jésus est Christ et Fils de Dieu. Somme toute, parce que l'idée de Messie peut véhiculer, on le verra dans la suite de notre lecture, peut véhiculer des projections, un messianisme qui peut être soit politique ou simplement l'expression d'une projection idéale, d'un fantasme de toute puissance ou d'un dieu bouche-trou, que sais-je, et que le Messie, tel que Jésus va révéler qu'il est un Messie tout à fait surprenant, bouleversant, et à certains égards, même certainement, est un Messie scandaleusement Messie, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout à l'image de ce qu'une projection naturellement humaine veut voir dans un super-héros ou dans un sauveur, simplement.
Au fond, vous nous invitez à lire en laissant des zones d'étonnement, des zones d'énigme et même des zones d'ombre.
Eh bien, c'est très exactement ça. Et je crois, il y a des commentateurs qui le montrent ici dans cette émission, on ne pourra pas arriver chaque fois avec tout l'apparat critique des gens qui travaillent et qui ont des compétences que je n'ai absolument pas, donc des gens qui sont des exégètes. Bon, simplement, je pense que tout lecteur peut découvrir aussi qu'un récit, pour être un récit qui tient la route, doit justement laisser ces zones presque, pas de page blanche, mais l'énigme oblige le travail du lecteur. C'est ce qu'on appelle maintenant donc, dans les redécouvertes de l'herméneutique, c'est-à-dire la compréhension d'un texte. Ce n'est pas seulement l'auteur lui-même devant son texte, c'est que le texte génère des effets chez le lecteur. Et pour générer des effets chez le lecteur, eh bien, il faut le surprendre, il faut l'étonner, il faut le mettre devant des paradoxes, c'est-à-dire des moments où son raisonnement s'oblige ou est obligé à voir autrement, prendre un autre point de vue, adopter une autre mentalité, s'il veut dépasser ce qu'on avait appelé des apories, c'est-à-dire des difficultés ou des énigmes du texte. C'est-à-dire si on veut simplement faire ce travail de compréhension hein, pour que le texte à nouveau devienne, comme je dis toujours, le but d'un texte qui est une lettre morte, c'est qu'il redevienne par la lecture parole parlante. Parole parlante, c'est ça vraiment la finalité, je crois, de l'exercice même de toute bonne lecture. Oui.
Nos amis juifs disent que un texte est toujours accompagné d'une marge et que cette marge, c'est au lecteur à la remplir, à l'écrire en quelque sorte, avec sa vie tout simplement.
Je crois que oui, c'est très juste. Oui.
Nous allons laisser donc ces zones d'ombre. Alors il y a une citation, et c'est une citation qui est une citation bricolée, en fait. Elle n'est pas tout à fait authentique.
Tout à fait. En fait, il est même grammaticalement difficile aussi d'apprécier, non pas où commence la première phrase de l'évangile de Marc, mais où est le point final. Parce que dans les manuscrits tels que nous les avons, enfin en tout cas les plus anciens, il n'y a pas de ponctuation. Alors, on fait des choix, et tout commentateur s'oblige à faire des choix. On pourrait donc très bien lire, comme dans la taupe, commencement de l'évangile, le Jésus-Christ, fils de Dieu, ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, voici. Mais habituellement dans la Bible, ou quasiment toujours, quand on indique ainsi qu'il est écrit, ça renvoie à ce qui précède et jamais à ce qui suit. Donc je pourrais très bien comprendre que ce qui est écrit dans le livre du prophète Isaïe, c'est ce qui précède, c'est-à-dire le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et puis qu'on passe à une citation qui n'est pas d'Isaïe d'ailleurs, puisqu'elle vient du livre d'Exode et du prophète Malachie, et puis on a Isaïe. Donc parce que sinon, si je lis donc ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, si je mets deux points, voici j'envoie mon messager en avant de toi, ce n'est pas de l'Isaïe. Donc on pourrait très bien entendre que ce que Marc veut faire comprendre à son lecteur, c'est que le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, c'est ce que Isaïe avait annoncé. Et puis au moyen d'un bricolage avec deux livres, donc une citation de l'Exode et de Malachie, et puis à nouveau Isaïe, on précise que cet avènement et cet événement de la proclamation de l'Évangile trouvent déjà une anticipation par un messager qui vient préparer ce chemin. Un chemin, nous l'en avons déjà parlé en parlant de la foi, on le verra, tout l'Évangile de Marc, c'est aussi comme tout récit, entre guillemets, de la vie de Jésus-Christ, c'est une marche continue, c'est un cheminement. Nous verrons qu'il chemine par terre, beaucoup par mer, et que ça marche, en fait. Il y a beaucoup de déplacements, en tout sens et en tout va, et que ça dit bien quelque chose lors de ce cheminement, qui est celui du cheminement du disciple, et du croyant et du lecteur. Et donc, on fait venir un personnage qui est celui donc, de Jean le Baptiste. Pourquoi Jean le Baptiste alors? On pourrait dire d'abord qu'il y a une raison profondément historique, c'est que le premier évangile mis par écrit ne peut pas taire que le personnage de Jean le Baptiste, les spécialistes maintenant donc, qui essayent de reconstituer le premier siècle donc des origines du christianisme ou du judéo-christianisme, montrent que Jean le Baptiste a eu une importance considérable. Que cette importance, elle a dû être, si l'on veut, reformatée pour montrer que ce Jean-Baptiste, s'il fut un personnage très important, par son appel à un changement, à la métanoïa, à la conversion, etc., à un changement de vie, il est, par rapport à Jésus-Christ, il est en position, j'allais dire, de petit. C'est lui qui laisse la place, il faut que Jésus croisse et que lui diminue. Mais ça dit déjà dans le texte de l'Évangile l'importance qu'a eu Jean-Baptiste, qui, si l'on veut, sert dans un Évangile pour montrer qu'il y a déjà un besoin de préparation, parce que l'événement de la proclamation que le royaume est déjà là, c'est quelque chose qui est suffisamment inouï et bouleversant pour que ça provoque un changement de mentalité. La grande différence entre Jean-Baptiste et Jésus, c'est que Jean-Baptiste annonce le royaume de Dieu pour plus tard et que ça conditionne maintenant un changement pour la conversion, pour le pardon des péchés, tandis que Jésus voit la métanoïa, on le verra, comme étant une conséquence de l'accueil de la proclamation que le royaume est déjà là.
Maintenant, il est maintenant. Là, maintenant.
Et ça, c'est l'immense différence entre le message de Jean le Baptiste, du précurseur, et de Jésus.
Ce sera c'est le moment de faire une pause musicale avec la Rosa en Florese, un ensemble qui joue de la musique judéo-espagnole et qui est un ensemble de chez nous. Sur RCF, en compagnie de Dominique Collin et avec Pierre-Paul Delvaux, nous continuons notre lecture cursive de Saint-Marc. Nous venons de voir apparaître Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, lui, c'est un personnage important, mais qui va justement disparaître.
Oui, il va laisser la place, mais sa présence aura été importante pour manifester la transformation qui est exigée par la justice de Dieu, c'est-à-dire la sainteté de Dieu, qui n'est pas simplement une sorte de lavement de péché par effet juridique, obtention par des rites qui se faisaient donc jusque-là dans le temple de Jérusalem. C'est-à-dire que pour expier les péchés, d'abord le grand prêtre prenait sur lui le jour de l'expiation, puis il y a tous les sacrifices qui sont une manière de se rendre, je vais dire, à nouveau en bonne grâce avec Dieu, avec un effet de donnant-donnant, mais qui ne traduit pas nécessairement une transformation intérieure, c'est-à-dire une transformation du comportement, une transformation de l'agir. Et Jean-Baptiste, c'est ça. À mon avis, c'est ce qui fait que Jésus peut tout de suite en brancher, entre guillemets, sur le baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean n'est pas un acte sacrificiel ou cultuel. Il est l'expression figurée et mimée. On le sait dans le Premier Testament et dans le monde oriental, pour manifester le sérieux d'un acte, on doit le manifester dans son corps, il faut que ça se voie. Et on parle bien d'un baptême qui est une immersion complète du corps dans le Jourdain. Donc ça engage, si vous voulez. Et il y a ce que Paul relèvera comme symbolique chrétienne après, c'est le passage en l'eau fait qu'il y a quelque chose que l'on quitte, quelque chose qui meurt dans l'eau pour renaître. Donc le baptême n'est pas un acte sacrificiel ou cultuel, c'est-à-dire purement et simplement formel au sens liturgique ou juridique. Il engage une transformation dont le baptême n'est que l'occasion de dire « je m'engage à la conversion », c'est-à-dire à la métanoïa. Parce qu'en grec, le mot a beaucoup plus de force et me semble-t-il, plus de justesse que le mot conversion, d'autant plus que bon, les mots, tous les mots ont leur vie, c'est-à-dire naissent, vivent, un peu meurent. En tout cas, le mot conversion a acquis une sorte de banalité, puis peut-être que cet appel permanent, notamment lors du carême, à se convertir, c'est-à-dire à ne pas manger des chocotof ou que sais-je, a probablement rendu à la fois si peu sérieux la conversion. En tout cas, ne fait pas entendre le mot en grec, c'est metanoia. Noia, c'est nous, c'est l'esprit, c'est-à-dire les puissances spirituelles de l'être humain. Donc pas seulement l'aspect intellectuel, mais ce qui fait d'un humain un être spirituel, c'est-à-dire un être doué d'intelligence, de liberté, de volonté, de discernement. Et le méta, c'est un passage à une autre forme de mentalité. Donc moi, je traduis metanoia, comme d'autres, par changement complet de mentalité. Et ce qui fait entendre quelque chose qui pourra parler, je crois, à nos contemporains, hein, acquérir la mentalité du royaume, ce que Jésus va justement au plein milieu de l'évangile de Marc, lorsqu'il parle à Pierre, dire « Tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ». Il y a la mentalité qui voit les choses selon les vues humaines, et l'évangile de Marc est là pour nous disposer, ou en tout cas provoquer, une transformation de notre mentalité afin que nous puissions voir selon les vues de Dieu. C'est-à-dire voir le royaume qui est déjà là et qui provoque alors, nous le reverrons dans la parole de Jésus, non pas une obligation mais un retournement de la vie parce que quelque chose de neuf est devant nos yeux, c'est le royaume qui est enfin une réalité présente et agissante.
C'est ce mot retournement qui me venait en vous écoutant. Et ce qui est intéressant, c'est un retournement, mais pas une négation. Jésus, me semble-t-il, dans les évangiles, ne nie pas cet élan humain. Au contraire, il l'accueille et il va le retourner et
l'orienter. Oui, c'est parce que nous utilisons aussi des synonymes, parce qu'il y a deux mots en grec pour dire conversion. Il y a épistrophé, qui veut dire se retourner, c'est-à-dire je suis sur un chemin et je me retourne, ça c'est épistrophé, métanoïa, c'est plutôt lors du dépassement, aller vers une puissance de changement plus grande qui fait qu'on entre dans une autre logique en fait de vie, c'est acquérir un autre point de vue sur l'existence. Les thérapeutes, notamment tous ceux qui, avec l'école de Palo Alto, si ça dit quelque chose à nos auditeurs qui ont développé lors de la thérapie brève, savent que la parole peut produire des effets de changement qui sont des reconfigurations de la manière dont quelqu'un qui a par exemple des dysfonctionnements est en rapport avec sa réalité. Donc il suffit parfois de changer, si on veut, de disque dur, hein, de changer de manière de voir les choses pour que subitement des freins, des blocages soient levés, soient transformés. Et le royaume, c'est ça, c'est l'offre d'une nouvelle donne qui est là, et quand on l'accueille, eh bien, elle crée un changement de perspective, de point de vue. C'est ça la métanoïa au sens évangélique, et en tout cas au sens martien du terme.
Alors nous allons évoquer une petite scène qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le baptême de Jésus. Je lis « Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Alors il y a le baptême et puis tout d'un coup, Jésus voit.
Beaucoup de choses à dire, on va prendre les choses dans l'ordre. D'abord donc de rappeler que Jean est là donc pour proclamer un baptême qui est une offre, qui signifie donc ce changement de mentalité, de comportement, auquel visiblement adhère toute une série de personnes. Même si nous n'avons pas chez Marc les controverses qui auront lieu dans d'autres évangiles avec justement les gens de Jérusalem qui viennent vérifier si l'ordre de mission de Jean le Baptiste est valide. Ici, Marc va droit au but. Jean est là pour dire cette proclamation, montrer que la justice et la sainteté de Dieu passent par un changement de comportement, et pour nous dire, très étrangement, que Jésus passe lui-même par ce signe et ce geste. Alors, difficile de comprendre, est-ce que Jésus lui-même a besoin de conversion, ou est-ce pour montrer justement la radicalité d'un changement qui va venir par la parole qu'il va proclamer juste après dans l'évangile de Marc, c'est-à-dire le royaume qui oblige donc à un changement complet, c'est-à-dire un passage de la mort à la vie, et que pour Jésus aussi, ce passage-là est signifiant. Je veux dire, quel que soit le fait qu'il soit exempt ou non de péché, en tout cas si on entend le péché au sens moral devenu celui de la théologie morale de l'Église, mais même pour Jésus, il y a une sorte de préparation qui exige de lui, par le geste même de l'immersion complète, à manifester que nous sommes dans un temps nouveau. Quelque chose arrive. Et ça va être signifié, justement, non pas parce que Jésus va s'autoproclamer quelqu'un, et ça c'est très important remarquer, Jésus ne se proclame pas en sortant de son baptême, en remontant de l'eau, il ne se proclame pas Messie ou Fils de Dieu, il se reçoit d'un autre. Et c'est tout à fait fondamental pour la suite aussi de notre lecture de Marc.
Nous allons justement en rester là. Effectivement, juste après ce baptême, il y a ce moment d'intimité entre Jésus et son Père. Et il reçoit effectivement cette mission, en quelque sorte, cette mission d'amour. Nous y reviendrons dans la prochaine émission.
Voilà. Merci,
Frère Dominique.
À bientôt.